On aime ce que vous faites.
All right.
Ah, merci beaucoup, M. Drainville. 13h11, 418-971-1001. Ça vous tente de participer aux discussions qu'on a en studio. Ça fonctionne beaucoup par texto. Audrey, très alerte pour ce qui se passe sur la route. Si vous voyez quelque chose, vous êtes nos yeux, nos oreilles. Merci beaucoup de nous en informer aussi avec le même numéro, 418-971-1001. On a de la belle visite en studio. C'est la belle gang du Centre Hi-Fi. Je dis la belle gang. Il est en studio avec moi, il est seul. C'est le PDG et pilote de course, Frédéric Bernier. Salut, Frédéric.
Bonjour, bonjour.
Content de vous avoir en studio. Ça fait deux fois, trois fois qu'on se rencontre. Je pense que c'est la deuxième fois.
Deuxième fois.
Puis, toujours autant de travail chez Auto Hi-Fi?
Ça lâche pas. J'ai pris une petite somme tantôt dans la salle d'attente. Ouais, on travaille fort.
Mais ça, c'est-tu parce qu'on travaille fort ou c'est l'âge?
C'est les deux.
Ouais. Parce que quand on se promène au Guerrier de la Capitale, des fois, on voit des messieurs qui attendent le madame dans les boutiques, puis ils s'endorment directement sur le. Tu sais, dans le milieu du hall, là, sur les divans, là, Audrey. Là.
Oui, absolument. Il y a beaucoup de gens qui font ça.
Mais oui. Ton chum fait ça, petit chum, fait ça.
Non, mon chum veut pas m'accompagner magasiner, c'est pas compliqué. Là.
C'est simple de même.
Ils sont pas de la maison.
Il préfère dormir à la maison.
Exact.
Fait, donc, vous travaillez beaucoup au Centre Hi-Fi, vous êtes pilote de course. En nombre d'heures, ça peut ressembler à quoi, mettons, les deux? Joindre les deux?
Ben, les courses, dans le fond, moi, je vois ça plus comme un passe-temps.
Ouais.
J'essaie dans chaque série d'avoir au moins deux voitures de course pour justement, si jamais il y a des bris ou tout ça, j'ai pas grand temps à mettre là-dessus une fois que la saison est commencée.
Okay.
Fait qu'en intersaison, durant l'hiver, c'est là qu'on remet les bolides à jour, on refait la mécanique, on fait la carrosserie, tout ça. Mais une fois que c'est parti, malheureusement, pour moi, j'ai pas grand
pas
temps,
le temps
à passer durant la semaine, non, malheureusement.
Au niveau des courses, est-ce que c'est toi qui répare toi-même tes véhicules?
Oui. Ben dans le fond, le tuning comme tel, on le fait faire.
Oui.
Mais toutes les réparations, changer les pièces, les moteurs, les transmissions, oui, c'est moi qui le fais là, avec mes partners.
Puis là, tu fais combien de courses par année?
Dans la série SPC, il y a 5 week-ends de 3 courses.
OK.
Fait que c'est ça. Ça donne une quinzaine de courses là, par année.
Puis la famille, es-tu tout impliquée? Vas-tu tout te voir?
Depuis à peu près 2 ans, la famille ne suit plus parce que les enfants, quand c'est petit, ça suit les papas, ça l'aime ouais. ça. Mais là, quand c'est rendu ado avec les chums et tout ça,
c'est plus intéressant,
ça
là,
préfère
hein?
rester à la maison avec son chum, oui.
Ah ouais, c'est pas comme dans les films. Toute la famille va voir le pilote de course et l'encourage et tout ça.
Ben, si t'écoutes les films là, comme il faut, là, tu vas te rendre compte qu'ils ont souvent des bébés, des bras et tout ça, mais les ados sont souvent pas là.
Oui, ils veulent rien savoir.
Non, okay. Exact.
Ben, t'as-tu essayé des initiés justement au merveilleux monde de l'automobile?
Oui, ben j'ai essayé de l'initier en karting un petit peu.
Ouais.
Sauf que, tu sais, quand t'es pilote de course, t'aimerais ça que tes enfants apprennent vite puis qu'ils
ben
soient
oui.
bons vite. Fait que là, ouais. tu donnes des petits trucs, freine le moins possible, tout ça, puis souvent, c'est pas des bons trucs à donner parce que freine pas, l'enfant va écouter ce que tu dis puis ça rentre dans les pneus, c'est pas long. Puis c'est peut-être pas les meilleurs conseils.
C'est ça. Mais c'est cute quand même.
Oui, effectivement.
Ouais. Est-ce que y a combien de véhicules qui tournent avec vous autres?
Nous autres, on est 41 pilotes inscrits cette année. Tu vois, là, la première en Ontario, il y a 2 semaines, on était 31 pilotes. Fait que c'est pas mal moitié-moitié ontarien québécois.
Okay. Vous avez combien de pistes à travers le Canada?
On a 5 pistes. C'est tout en Ontario et au Québec.
OK. Puis les pistes les plus prestigieuses, c'est lesquelles qu'on a?
Grand Prix de Trois-Rivières, définitivement, ouais, c'est oui. un circuit mythique. C'est là où il y a le plus de monde et plus de spectateurs. Où ce qu'on était à la première, là, c'est le Canadian Tire Motorsport, qui est à peu près 1 heure de Toronto. Il y avait quand même une grosse foule. On était 40 000
wow.
téléspectateurs. Ça fait du monde.
C'est quasiment une religion pour certains. Là.
Ben, c'est que des belles pistes puis des événements de qualité.
Ouais.
Il n'y en a pas des tonnes au Québec, même en Ontario. Fait que, ça réunit souvent les plus gros circuits. Fait que là, on était avec le NASCAR. Anciennement la Pinty's, qui est maintenant le NASCAR Canada, qui était là. Ensuite de ça, on roule aussi avec la IMSA, on roule avec le Mazda. On a la plupart des grosses séries sont en même temps, fait que ça fait des gros shows. C'est pour ça que les spectateurs aiment ça.
T'as-tu toujours été passionné de vitesse?
Toujours.
Ouais.
Ouais. Motoneige, moto. On a toutes ces babelles-là.
Puis, tu y penses-tu à chaque fois que tu embarques dans le véhicule, que tu embarques dans un véhicule qui est hyper puissant, puis il faut que tu fasses une différence entre tes envies puis
ouais.
Ce que la machine peut, ou jusqu'où la machine peut t'amener?
Ben, c'est comme là, tu vois, quand on courait il y a 2 semaines en Ontario, il y a une journée où il y a eu de la pluie.
Ouais.
Je te dirais que la moitié des pilotes sous la pluie sortent même pas pour pratiquer parce qu'ils ne veulent pas endommager leur véhicule. Et moi, je leur dis tout le temps, profitez-en. Là, il y a de la pluie, on roule pas. Il n'y a pas souvent. Tu sais, dans une saison, si on est chanceux, il va y avoir. Moi, je dis chanceux. Pour beaucoup, c'est mal chanceux quand il pleut, mais ouais. C'est vraiment le fun. Dans le fond, courir sous la pluie, c'est un peu comme sortir en auto sur une tempête de neige. Tu sais, si t'aimes que le derrière de la voiture part, puis tu sais, avoir des pertes de contrôle, puis t'amuser, c'est sous la pluie que ça se fait. Fait que c'est là que faut que tu pratiques. Sur la pluie, là, les bons pilotes, normalement, c'est là qu'ils se démarquent.
Puis est-ce que c'est dur physiquement?
Je te dirais que oui. Le pire ennemi, c'est la chaleur. Tu sais, on dit physiquement, c'est pas... Dans le fond, c'est comme si tu étais sous le gros stress tout le temps. Fait que oui, quand ouais. Tu sors de là, tu sais, c'est une course d'une demi-heure, c'est comme si tu avais été sous le stress pendant 5 heures de temps. Là. Fait que oui, quand tu sors de là, tu es effectivement épuisé. Mais il y a des journées où quand il fait très, très chaud, c'est là souvent que il y a... Je te dirais qu'une fois ou deux par année, il y a des pilotes en sortant de leur véhicule là, qui s'effondrent à terre. Oui, exact. Ouais.
Puis, vous n'avez pas pensé mettre l'air climatisé là-dedans?
Il y en a qui ont des systèmes.
Bien, c'est sûrement.
Ben oui, c'est comme une petite glacière qui se met à côté d'eux.
Okay.
Ils remplissent ça de glace, puis là, avec un petit fan, puis tout ça, ça envoie de l'air frais là,
dans le visage ou dans le casque. Ça pourrait pas être carrément dans le véhicule?
C'est dans le véhicule.
Oui, mais je veux dire intégrer, là, comme... parce que là, vous parlez d'une glacière avec un van. Oui,
c'est ça. C'est
que dans le fond, c'est... Tout, là.
Exact. C'est que le système d'air climatisé d'un véhicule consomme des HP. Puis le but de faire de la course, c'est d'avoir le plus de HP au sol. Fait que là, on enlève tous les airs climatisés et tout ça. Puis le poids aussi. T'sais, on dit tout le temps qu'une voiture de course, c'est poids-puissance. Fait qu'il faut que l'auto pèse le moins possible. Fait que tout ce qui est climatisation, les docks de chauffage, tout ça, il enlève tout ça. Fait que dans le véhicule, c'est pour ça que souvent, quand on regarde un auto de course, on dit « Mon Dieu, il n'y a pas grand-chose à part un volant et un banc. » Effectivement, c'est voulu pour le poids.
OK. Frédéric, est-ce que vous êtes strappé là-dedans, puis pas à peu près? Là?
Très bien strappé.
Comment ça va, les angles morts?
Ça dépend des voitures.
Tu y vas-tu au son? Tu y vas au filet?
Ça dépend des voitures. En NASCAR, ça, on n'a pas le choix. On a un spotter parce qu'on est vraiment assez à terre. Puis la bordure de la porte nous est quasiment vis-à-vis les yeux. Fait qu'on voit pas grand-chose.
On peut pas voir.
C'est ça, exactement.
Le spotter, il te suit puis il te dit tu peux aller à gauche, tu peux aller à droite.
Exactement.
Puis lui, il est pas dans le véhicule avec toi, il est à l'extérieur.
Du tout. Les spotters sont tout le temps habituellement au-dessus de la tour de contrôle ou à la partie la plus élevée du circuit. Puis c'est là qu'ils vont regarder. Eux autres voient tout ce qui se passe l'action. Puis c'est eux qui vont dire bon, ben là, il va y avoir un redéport, colle plus en avant ou colle, tu sais, il y a quelqu'un qui te pousse en arrière. Fait que c'est eux, c'est tes yeux sur la piste.
Ouais. Puis est-ce que des fois, il y a des difficultés de communication avec ton équipe versus toi dans le véhicule? Puis, tu sais, je vais expliquer ma question. Là. Quand j'ai fait mon cours de pilotage, moi, chez Pro Aviation à Québec, j'avais toujours l'impression que dans les tours de contrôle, tout le monde était sous le stress. Puis là, je me disais à JFK, tu sais, les gens, les contrôleurs dans le tour de contrôle, ils doivent être sur le café à côté, là, tu sais, la grosse caféine et tout ça. Puis quand j'ai écouté le documentaire par la suite, c'est les hommes et les femmes les plus tranquilles de la Terre. Ils boivent la tisane, sont très, très, très relax, puis sont très à l'affût de ce qui se passe aux alentours. Quand ils jasent au pilote, là, c'est comme s'ils étaient en congé, en congé bien relax.
Pas le choix, je pense.
Alors que j'avais l'impression que tout le monde se criait après. Vous autres, les coms, comment ça peut fonctionner?
Bien, c'est sûr que ça, des fois, des bugs, ça arrive. Ouais. Un radio qui se déconnecte parce que veut pas des connexions. Tu as ton micro qui est connecté après ton casque qui est connecté après l'auto, tu as l'auto qui est connecté après la radio. Là, les
ça
batteries, ben, c'est ça. Puis, il n'y a pas juste le spotter, tu as aussi toute l'équipe qui a des radios pour communiquer. Parce que quand on fait du circuit routier, c'est que là, la piste, tu ne la vois pas partout. Fait que tu as des équipes qui vont avoir des spotters à chaque virage. Fait que si tu as une piste avec 6-7 virages, ils vont essayer d'aller mettre 6-7 gars pour aller voir s'il y a-tu des accidents et tout ça, pour le reporter au pilote.
Puis tout ce monde-là te parle dans tes oreilles pendant que tu courses.
C'est ça. Il y a des pilotes qui vont essayer de dire à leur équipe, regarde, parlez-moi le moins possible, juste s'il arrive quelque chose. Mais il y en a qui aiment ça se faire parler. Moi, je suis pas du type à me faire jaser beaucoup.
Mais il me semble que ça déconcentre.
Ouais, exact. Puis c'est juste en fin de course que je veux savoir là, le plus les distances ou les vitesses des autres. Tu es en train de me faire rattraper. C'est quoi les... T'sais, j'ai-tu 3 secondes de retard sur le meneur ou ces choses-là? Mm-hmm. C'est à peu près juste ça que je veux savoir. Pour le reste... dites-moi le pas. Tu sais, qu'il y a un gros accident ou tout ça, les flaggeurs ou le personnel de piste est quand même assez rapide. On le voit, là, veut pas, il n'y a pas de problème.
Question d'un auditeur. Toi, tu es dans la Super Production Challenge, c'est ça?
Oui.
Est-ce que ça coûte cher une saison de Super Production Challenge?
Dans le fond, les inscriptions, normalement, c'est environ 1 500 $ par week-end pour les inscriptions. Toute inscription vient à peu près avec 4 passes, ce qui veut dire que tu peux inviter 4 mécaniciens ou 4 personnels là, qui viennent avec toi. Okay. Fait que même si tu n'as rien qu'un mécanicien, là, tu peux amener 2 personnes de ta famille en plus ou tout ça. Si tu veux être plus, ben, il faut, comme tout le monde, que tu payes tes propres billets.
Okay.
Pour la voiture, ben, là, c'est sûr que ça te prend à peu près un set de pneus par week-end. Ce qui est le fun dans Super Production Challenge, on roule avec des pneus des Nankang. C'est des pneus qui se détaillent à peu près 200 $ du pneu. Donc, c'est quand même pas trop cher. Versus d'autres séries, que ça peut être 550 $ du pneu. Fait que veux pas, c'est pas mal tout le temps là, un set de pneus au moins par week-end. Fait que,
c'est quand même un sport où tu dois être commandité là, pour aider à faire ta saison.
Oui, moi j'ai des bons commanditaires. Je suis commandité par Boulevard 102.1.
C'est vrai?
Ben oui.
Ah oui,
je suis un bon commanditaire.
Yeah. Il y a des stickers là-dessus.
Oui, les courses automobiles, c'est sûr que pas de commanditaire, c'est assez rough, à moins de venir d'une famille qui a quand même des gros moyens. C'est pour ça aussi qu'il y a différentes classes dans les courses automobiles, que ce soit en NASCAR ou en Super Production Challenge. Tu sais, tu peux commencer en Super Production Challenge avec la production, qui est un véhicule d'à peu près 100 HP. C'est des autos qui vont coûter peut-être 20 000-25 000 $. Mais c'est sûr que plus tu vas monter, mais tu sais, nous autres en Super Production Challenge, qui est des voitures de 300 HP, c'est des voitures de 125 000-150 000 $. Fait que tout va avec. Fait que si tu brises, ça coûte plus cher.
Ouais, c'est ça. Quand tu mets ça dans un mur, ça doit être tanné un peu, là.
Définitif, exact.
Chérie, on vend la maison!
Il y en a sûrement qui hypothèquent, en tout cas.
Ben, sûrement, sûrement. Au niveau des classements 2023-2024, là, tu te situes où, à peu près?
L'année passée, on a fini deuxième au championnat.
Wow.
On n'a pas été chanceux. On a gagné le premier week-end là, qui était aussi au Canadian Tire Motorsport. On a fait victoire. Après ça, la seule chose qui est arrivée, c'est qu'on a brisé un moteur. Puis malheureusement, on essaie de traîner le plus de pièces possible, sauf que on n'a pas toujours, comme là, j'avais pas de moteur de rechange. Fait que là, quand tu sautes une course, si tu la gagnes, tu gagnes 40 points. Si tu la finis pas, tu as zéro.
Okay.
Fait que là, ça part mal. Fait que quand le championnat est serré, 40 points à la fin de l'année, c'est ce qui peut faire la différence. Fait que l'année passée, j'ai terminé deuxième avec une centaine de points de moins au championnat, dû justement comme ça à un accident et un bris de moteur.
Autre question pertinente des auditeurs, c'est le fun, les auditeurs aiment la course automobile. Est-ce que vous êtes surveillé pour ce qui est des HP, pour ce qui est du poids du véhicule?
Oui, en Super Production Challenge, ce qui est le fun, c'est que les véhicules, dans le fond, ce qui arrive, comme là, tu vois, cet hiver, là, tout le monde a travaillé sur la voiture. Comme un maniaque de mécanique comme moi, ce qu'on aime, c'est d'essayer justement de faire des changements, essayer de balancer l'auto, changer les freins, essayer une nouvelle suspension. Puis là, lors du premier événement, ben là, c'est là que tu dis, bon, j'ai-tu gagné de quoi sur les autres ou j'en ai perdu? Tu vois, cette année, moi, j'ai gagné vraiment beaucoup d'handling, ce qui veut dire la conduite de l'automobile, je l'ai grandement amélioré versus l'année passée. Sauf que j'ai absolument rien fait au moteur, absolument pas, mais il y en a qui ont sûrement investi quelques dollars parce que j'étais incapable. J'avais 15 secondes de retard sur le premier, ce qui est quand même énorme. Donc, c'est là, ce que la série fait, c'est qu'ils prennent les données du véhicule pour savoir la télémétrie. Puis là, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont rajouter du poids pour que ramener, dans le fond, les écarts des véhicules pour qu'il y ait un spectacle. Parce que c'est sûr que pour moi, en fait, fin de semaine passée, ça n'a pas été super. C'était quasiment du lapping parce que les autos en avant de moi étaient à 15 secondes et les véhicules derrière moi étaient à 25 secondes.
Ouais.
Donc, c'était énorme. Fait, j'étais comme tout seul. Fait que, tu sais, quand tu te bats pas, ça fait pas des super courses. Oui, c'est le fun. Tu dis, je finis troisième ou deuxième.
C'est pas excitant.
Mais le meneur, tu sais, c'est le fun d'être capable de te battre. Dans ce cas-là, moi, je préférerais quasiment être plus en arrière avec une auto qui roule moins, mais être capable de te battre.
Oui, parce que l'espoir d'essayer d'en dépasser.
Oui, exactement.
C'est ce qui te fait triper.
Mais là, je me battais, mais avec les voitures 200 HP. Je me battais avec ceux qui étaient plus rapides.
Puis là, avec Auto Hi-Fi, comment ça se passe? Là? C'est une belle boutique. Il y a énormément d'employés qui sont là. Ça fait plusieurs années que tu es là. Ça fait combien de temps que tu as le Auto Hi-Fi?
Auto Hi-Fi existe depuis 38 ans.
38?
Moi, je suis propriétaire depuis 31 ans. Fait que c'est une boutique, dans le fond, qui fait du radio automobile en majorité. Je te dirais que 90 % de notre chiffre d'affaires, c'est vraiment du radio d'auto. On fait aussi démarreurs à distance, on fait des bateaux, les motos. Dans le fond, partout où on peut mettre un radio, on est là.
Ouais.
On vend un petit peu d'accessoires automobiles, comme des mags, des pneus, ces choses-là. Mais je te dirais, c'est peut-être 5 % de nos ventes. On est vraiment, vraiment spécialisé là, sur les radios d'auto.
Frédéric, on va permettre à nos collègues, à mes collègues à moi, puis les gens qui sont à ta droite, de nous voir comme si on était des dinosaures. Ça te va-tu?
On essaye ça.
Saviez-vous qu'il fut une époque, les amis, où les gens, quand ils sortaient, ils traînaient avec eux autres leur radio de char dans le bar?
Pourquoi?
Parce qu'on voulait pas se les faire voler. Puis après ça, ils ont décidé que la radio allait rester dans le char, mais la plaquette qui te permettait là, de peser sur les pitons,
ouais.
Ben là, tu pouvais la prendre, la mettre dans un étui, puis la rentrer avec toi dans le bar.
Avoir leur face, d'après moi, ils n'ont pas notre âge.
Non, ben, on n'est pas là.
Je me souviens, le pire, c'est que je me souviens que j'ai un ami plus jeune qui s'était fait voler sa radio, mais j'ai jamais entendu des histoires de même, par exemple, de traîner ta radio dans le char.
On sortait la radio, elle sortait, puis là, t'avais la poignée, puis tu rentrais chez vous avec ta radio, puis le lendemain, ben, tu recommençais, tu prenais ta radio, tu rentrais dans ton char, tu rentrais ta radio dans le char, merci, ça partait. Puis après ça, ils ont sorti les plaquettes, Dieu merci qu'ils ont sorti les plaquettes, parce qu'à un moment donné, ça devenait compliqué. Là.
Effectivement. Mais dans le fond, les radios anti-vol ont sorti dans les années 90,
ouais.
Parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de vols de radio. Dans le fond, qu'est-ce qui a fait que le vol de radio d'auto est devenu très populaire? C'est le CD. Donc, dès que le CD est arrivé sur le marché, tout le monde voulait écouter des CD. Fait que là, les radios, dans ce temps-là, se vendaient à peu près entre 800 et 1000 $ pour une radio. Puis ça faisait à peu près juste la radio et le CD. Fait que là, il y avait beaucoup, beaucoup de vols. On devait avoir là, quasiment un vol par jour de radio. Le monde disait, je me suis fait voler mon radio. Fait que là, c'est sûr que là, s'ils voulaient continuer à en vendre, bien clairement, parce que là, c'est pas juste la radio d'auto là, que tu t'es fait voler. Tu t'es fait endommager ta fenêtre. Puis fait que là, c'est les assurances.
Fou comment ça se faisait. On était au secondaire, on n'avait pas de char, on se faisait proposer des radios alpines.
Tu sais, aujourd'hui, ils volent des catalyseurs, des pièces qui vont te donner de l'argent au moins. Vous voliez pour de la musique. Il y a quelque chose de quand même beau.
OK,
là-dedans.
Parce que là, c'était pour de la musique, c'était correct.
Ben, à mon oreille, ça sonne plus doux.
Mais Ils n'ont pas connu ça. Nous autres, on a vu cette évolution-là.
Oui, ben c'est ça. Les vols de radio, dans le fond, le radio que tu parles, là, qu'on enlevait la radio complète, je te dis que c'était assez ordinaire parce que le monde voulait traîner son radio. Ça faisait ordinaire. C'est comme si tu te promenais avec une valise.
Ouais.
Fait que le monde, ce qu'il faisait, il l'enlevait, il le mettait dans le coffre ou en dessous du banc. Fait que les voleurs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils savaient bien que le monde les mettait dans l'auto. Fait qu'ils les volaient quand même. Fait que c'est là qu'ils ont sorti juste la façade qui se détachait. Ça, le monde était capable de l'amener, de le mettre dans ses poches ou dans sa coche. Ça, c'était un petit peu plus intelligent comme idée.
Là, vous êtes spécialisé le domaine des.
Là, vous êtes des dinosaures.
Oui, c'est ça, vous êtes. Le domaine des radios d'auto a énormément changé. C'est quoi le futur de la radio d'auto?
Bien, dans le fond, le futur de la radio d'auto, c'est un peu comme le futur de l'électronique en général ou de l'informatique. D'après moi, il n'y en aura pas de bout. Je te dirais que là, présentement, c'est le CarPlay qui tu sais, toutes les voitures neuves qui se vendent ont toutes à peu près ça, le CarPlay. Les écrans tactiles, tu sais, anciennement, les écrans tactiles, quand ils sont arrivés sur le marché, moi, je me rappelle d'avoir payé 4 400 $ pour un écran tactile.
Et c'est fou, hein?
Qui faisait rien.
Ah, là, ça en fait partie.
C'était rien qu'un écran qui t'avait un plus gros affichage. Il y avait possibilité d'avoir le GPS. Moi, je me suis dit, crème, je travaille là-dedans, je vais me le commander et tout ça. Je mets ça. Il n'y avait rien. Tu voyais rien qu'un petit point qui se promenait dans un écran bleu. Ça commençait à pogner l'autre bord du tunnel La Fontaine à Montréal. Dès qu'on rentrait sur l'île de Montréal, les rues apparaissaient, mais sinon, il n'y avait absolument rien. Fait que c'était vraiment cher pour ce que ça donnait. Maintenant, un écran tactile, tu as ça pour 250 $. Il y a ça partout, caméra de recul et autres. Fait que le CarPlay et Android Auto a vraiment changé les habitudes. Puis ça, c'est vraiment bien parce que ça te permet... T'sais, j'ai beaucoup de parents, des fois, qui viennent magasiner pour leurs enfants. Puis là, ils disent, bon, là, on va mettre un radio dans la voiture de mon enfant. Là, il vient de prendre la voiture de sa mère. Puis là, je veux que ça soit sécuritaire. Ben, là, j'ai dit, on ne regarde pas les bons radios. Parce qu'un radio Bluetooth, c'est sécuritaire pour ceux qui utilisent le téléphone. Les jeunes de 20 ans, ils n'utilisent pas le téléphone. C'est un peu comme les CD. Ils n'ont jamais acheté de CD. Ils n'en écoutent pas de CD.
Ouais.
Ben, les Bluetooth, eux autres, ils ne parlent pas au téléphone. Ils textent. Fait que tu auras beau avoir un radio Bluetooth dans une auto d'un jeune de 20 ans, il ne l'utilisera pas, ils vont continuer à texter. Alors que le CarPlay ou Android Auto te permet de texter, mais vocalement. Fait que c'est ce qui est pratique. Fait que le CarPlay, c'est une très, très belle invention.
Puis vous avez dû vous adapter aussi, parce que là, les véhicules sortent en 2024 avec les radios. C'est des bons radios, mais il y a des passionnés de musique ici à Boulevard. Là. J'imagine qu'eux autres sont intéressés à pimper justement l'intérieur de l'habitat.
La sonorisation.
La sonorisation et tout ça. Ça, vous êtes des spécialistes là-dedans.
On ne fait que ça. Et ouais, on est un des rares magasins, même dans le Québec entier, à faire à peu près que du radio d'auto à l'année. Il y a beaucoup de monde dans notre domaine qui vont faire de la vitre d'auto, des démarreurs à distance, ces choses-là. Nous, on fait à peu près que de la radio d'auto. Mais à Québec, c'est sûr qu'il y a quand même une grosse population, mais il n'y a pas énormément de magasins qui font ça. C'est ce qui fait que chez nous, on est capable de le faire à l'année. Ce qui fait aussi qu'on est quand même une référence, même avec des magasins de Montréal qui ne font pas ça à l'année. Le fait qu'on en fait beaucoup, 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 toutes les sortes de voitures, fait que plus t'en fais, ben mieux que t'es.
Mais là, est-ce qu'on remplace les processeurs audio maintenant?
Dans le fond, là, les radios d'auto sont de moins en moins... Anciennement, quand la première chose qu'on changeait dans une voiture, si on voulait améliorer le son, c'était une radio. Fait que la radio, elle nous permettait de doubler la puissance, puis on doublait aussi la qualité sonore. Fait que même si on gardait les mêmes enceintes, on améliorait de beaucoup le son. Présentement, le problème qui arrive, c'est que les écrans tactiles des nouveaux véhicules ne font pas juste la musique. Ils vont faire aussi, mettons, les bancs chauffants, la climatisation. Fait que de retirer la radio, le monde, ils sentent qu'ils vont perdre quelque chose plus que de gagner quelque chose. Fait que ce qu'on fait présentement, c'est qu'on garde les radios d'auto d'origine.
Ouais.
Puis on va rajouter, comme tu as dit, un processeur ou des amplificateurs pour améliorer le son du véhicule.
Vous pimpez ça.
Exactement.
Tu vois, Martin est en train de m'écrire. Salut, je suis fortement intéressé à pimper l'audio de mon SRT 392.
Yes.
C'est une belle machine. Puis il y a quelqu'un au lac Saint-Joseph qui m'a dit que vous vous rendez au lac Saint-Joseph directement sur le bateau pour pimper le bateau aussi.
Oui, dans le fond, c'est ça. On fait les voitures.
Ça doit être pas pire.
On fait les motos, on fait les bateaux, on se déplace parce qu'il y a beaucoup. Wow. Je te dirais que la moitié des bateaux, les gens les sortent pas de l'eau parce que juste sortir les bateaux, ça va lui prendre une demi-journée, une journée.
Oui. Ah, mais des fois, les gros bateaux, là, tu peux pas mettre ça auto-Wi-Fi. Là.
C'est pour ça que je te dirais que toutes les marinas du Québec, j'ai eu toutes les parcourir et beaucoup, beaucoup de lacs.
Ça doit tellement être plate pour les employés de partir de la job et aller sur le lac, sur le bateau toute la journée. Ils doivent tellement dire « Ah, patron, j'aurais préféré pas être là aujourd'hui. »
Je te dirais que les employés aiment mieux rester au garage.
Ah oui? C'est plus... Avec l'air climatisé, je
c'est plus moi, exact.
C'est
tu viens de dire le mot.
Ah non, moi,
le gros problème des bateaux, là, c'est que c'est sur un lac. Puis sur un lac, en plein soleil, quand il fait beau, dans le dessous des toiles d'un bateau, il fait très chaud. Fait que c'est pas un endroit
Frédéric, ça
qui
prend
est
la
super plaisant. Oui, exact.
Ça prend de la Coors Light. Ça règle tout sur le bateau.
Comme dans l'annonce.
comme dans l'annonce. Puis vous en faites à peu près combien de bateaux par année?
Ben, dans le fond, les bateaux, c'est périodique. Hein? Fait que là, on est dans un rush de bateaux. Je dois en faire un par jour. Fait que... Je te dirais que la moitié des bateaux viennent au garage. Fait que, tu sais, les plus petits bateaux comme de Wake ou ces choses-là, ceux-là, ils les déplacent. Je te dirais que pour aussi l'efficacité, c'est toujours mieux de les avoir au garage parce qu'on est plus proche de nos outils que sur un lac où ce qu'il faut, besoin d'outils, il faut que tu retournes au trailer. Ou, tu sais, il faut que les outils sont plus loin. Mais je te dirais, c'est ça, la moitié environ. Là,
Faites-vous encore pas mal de motos?
Oui, beaucoup, beaucoup. Même chose. Ça, le monde vient de les sortir. Fait que je te dirais que les motos qu'on fait le plus, c'est les Harley.
Ben oui.
Beaucoup de compagnies qui vont être spécialisées pour les Harley Davidson. Fait que tu as des compagnies qui vont faire la moitié de leur chiffre avec du radio d'auto et l'autre pour les motos.
C'est quoi la patente la plus inusitée sur laquelle tu as travaillé? Tu disais, je pensais jamais travailler là-dessus.
Je fais vraiment des choses vraiment bizarres. En fait, il y a juste l'aviation qu'on n'est pas autorisé à travailler parce qu'eux autres, ils ont des normes spécifiques. Mais je te dirais que tous les autres types de véhicules, je les ai faits à peu près. Fait que des gros camions qui vont à Bay James, qui peuvent même pas... On va les faire sur les bateaux au port. Fait que c'est des gros genres de porte-containers qui amènent des bateaux, qui amènent des gros camions,
puis
mais
les
par
gars
bateau.
Veulent des kits de son là-dedans.
Ben oui. Exact.
C'est drôle, mais drôle.
Fait que toutes les carrières qui est ici, il y a une grosse carrière à Beauport, pas loin du Canac. Là, c'est moi qui fais tous les camions qu'il y a là-dedans. Il y a justement, pas loin d'ici, juste en haut, là, ou là, sur le bord du Laurentien, il y a une autre grosse carrière là. C'est moi qui fais aussi les camions-là, à Val-Belair aussi. Fait que c'est toutes des choses qu'on pense pas, mais que ça prend un radio. Et très souvent aussi, des fois, la gueule, elle me tombe à la tête. Il y a quelqu'un qui m'appelle, qui me dit « Bon, j'aurais une machine d'asphalte à aller faire, OK? Quel garage va? » Non, c'est pas ça un garage, ça va être entre Duplessis. Puis « OK, tu veux dire quoi? » Ah non, elle est entre les deux autoroutes, là, dans la pelouse, là. Fait qu'il faut que je me déplace, mais sur le terrain. Fait qu'il y a des machines, il y a des machines comme ça que, tu sais, sont en mouvement. Ouais. Fait à part, mettons, du lac Saint-Jean, elle descend, puis eux autres, elle est sur des fardiers. Elle n'est jamais vraiment au garage, elle est tout le temps en mouvement. Fait que je m'en vais ce qu'elle travaillait, puis je m'en vais le faire sur place.
C'est le fun. Ça te fait découvrir plein d'affaires.
J'imagine que quand tu ne sais pas nécessairement ce que tu veux, parce que vous en faites des affaires puis des options, il y a des ondes d'essai audio hein, en boutique.
Oui, dans le fond, nous, en magasin, ce qu'on fait, puis ce qui fait aussi un peu notre renommée, c'est que je suis vendeur, mais mon but, moi, c'est pas tant de vendre un produit spécifique, c'est que je laisse choisir au client qu'est-ce qu'il veut. Puis je te dirais que la 80% du monde qui rentre en magasin, qu'une fois qu'ils ont fini avec moi, ils disent tout, ils disent « j'ai jamais eu une expérience comme ça ». C'est vraiment le fun de la façon que tu nous le présentes. Fait que moi, souvent, je dis pas comment ça coûte, je dis pas c'est quoi la marque, je dis rien. Puis je laisse le client écouter. Puis très, très, très souvent, la plupart des clients, une fois qu'ils ont choisi quelque chose, ils pensent toujours qu'ils vont avoir choisi ce qui est le plus cher. Mais contrairement à ce qu'on pense, la qualité sonore ne va pas nécessairement avec le prix de l'item.
Ouais.
Exact. Puis c'est vraiment drôle aussi parce qu'il y a beaucoup de monde qui dit « Bon, là, je suis rendu à 50 ans, je vais aller me gâter. Dans mon BMW, je vais mettre du méchant bon son. » Fait que là, ils se mettent un budget. Ils ont commencé à magasiner sur Internet. Ils disent « Oh, tabarouette, focal, fait des haut-parleurs jusqu'à 30 000 $ OK, ça, c'est cher un peu mon budget, mais ceux-là, à 3-4 000 $ je pense que je serais peut-être dû pour ça. » Ils arrivent en magasin, j'en fais écouter, puis tout ça. Finalement, ils partent avec des haut-parleurs à 700 $ Mais t'as des clients qu'une fois qu'ils ont écouté puis qu'ils savent c'est quoi qu'ils ont choisi, ils sont comme réticents à l'acheter, même si c'est ce qu'ils ont choisi. Ils ont pris, mettons, des Kenwood à 120$. Ils disent, ouais, mais ça, c'est les entrées de gamme. Ouais, mais je pense que je prendrais plus ceux à 300. Mais non, mais ceux à 300, t'es écouté, t'es pas choisi. Achète-les pas. T'as aimé ceux à 130$, prends ceux à 130$.
Ouais, ben, l'important d'être avec ton client pour expliquer comment ça fonctionne. Vous avez des kits de cinéma maison et tout ça?
Nous, on fait que l'automobile.
Que l'automobile.
Exact. Mais on peut avoir le même genre de feeling que
à
cinéma
de
maison.
La voiture. Les véhicules, je sais pas, moi, les campeurs, pouvez-vous faire ça aussi?
Oui, dans le fond, on fait aussi les véhicules. Dans le fond, tout ce qui est sur la route, on fait les kits de son là-dessus, effectivement. Dans les campeurs, il y en a certains qui vont avoir des cinémas maison, mais nous, on les vend pas. Fait que ça, c'est plus, mettons, la maison Adam ou d'autres places qui vont lui vendre le système, puis ils viennent nous voir pour que nous, on l'installe à l'intérieur du véhicule. Exact.
OK. Auto-Wi-Fi, on peut vous trouver à quel endroit?
Nous, on est au 670 rue Bouvier, pas loin d'ici, près du Costco. Pas mal tout le monde sait où est-ce qu'il est le Costco. Ouais. On est là depuis toujours. Dans le fond, moi, j'ai commencé à travailler là en 1991. C'était à la même place. Dans le fond, on est avec les anciens locaux de Stéréo Plus où était la maison Adam.
Ah, ben oui.
Dans le fond, Stéréo Plus, la maison Adam s'est appelée maison Adam en déménageant justement à côté de chez nous. Dans le fond, on est voisins. Ben, on n'est plus ensemble depuis une quinzaine d'années, d'après moi, environ. Puis c'est ça, moi, on est encore dans les mêmes locaux où ce qu'on était au départ.
Frédéric Bernier, je te souhaite une belle saison de course. Ton numéro?
28.
Le numéro 28. 102-1, ça t'aurait pas tenté.
Ça aurait été concept.
Il y a trop de chiffres, hein, c'est ça. Donc, je te souhaite une belle saison de course, puis je salue toute la gang de chez Auto Wi-Fi.
Un gros merci.
Merci à toi.
Prochaine. Bye. Bye.
Nous autres, on va